Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Monique Chim et aujourd'hui nous sommes avec Frédéric Canevet, créateur du blog conseilmarketing.com, co-auteur du livre Le Growth Hacking et Product Manager Bots chez Eloquent. Salut Frédéric, comment tu vas?
Bah, très bien, il fait très beau en plus. C'est une très bonne journée avec plein de projets qui sont avancés, donc c'est le top.
C'est génial, j'adore. Je vais te laisser te présenter pour les gens de l'audience qui ne te connaissent pas encore.
Alors, tout d'abord, merci de m'inviter aujourd'hui. Alors moi, ça fait plus de 15 ans maintenant que je travaille, même 20 ans que je travaille sur le web. Et ça fait plus de 15 ans que je tiens le blog conseilmarketing.com. Je l'ai créé en 2006, donc tu vois, ça ne date pas d'hier. Parfois, on me dit que je suis un dinosaure et un des rares survivants de l'ère... du blogging et j'ai survécu même si je vois qu'il y a plus grand monde en fait qui continue, mais moi ça me passionne en fait le blog en fait conseil marketing, c'est un moyen pour moi de partager des bonnes pratiques, des connaissances, ça me permet de m'auto-former et c'est devenu en fait une véritable, moi j'ai une petite passion, il y en a qui vont à la pêche, il y en a qui font du sport, et ben moi en fait je préfère écrire des articles de blog, voilà, donc c'est des conseils justement B2B, marketing B2B pour prospecter et fidéliser. Alors, comme tu l'as dit, j'ai écrit plusieurs bouquins. Le Growth Hacking que j'ai co-écrit avec Grégoire Gambato, Olivier Zongo-Martin. On est à la deuxième édition et si tout se passe bien, on sort une version 3 l'année prochaine et surtout une version 3 audio. Parce qu'en fait, moi, je suis un gros fan des livres audio. Tu vois, le podcast, ça me parle beaucoup. Et donc, en fait, j'aimerais bien avoir une version audio du livre parce que moi, je trouve que c'est un excellent moyen de découvrir des livres en permanence. Là, par exemple, tu vois, je suis en train d'écouter un livre de Tim Ferriss qui est hyper long à lire en normal. Mais en fait, en livre audio, finalement, c'est facile à écouter. Ça s'appelle « La tribu des mentors ». Alors, c'est pas le livre qui va révolutionner la vie, mais c'est un petit livre assez sympa avec quelques bons conseils. Puis j'ai écrit d'autres bouquins comme réussir son projet de chatbot. Parce qu'en fait, en parallèle, comme tu l'as dit, je suis product manager chez Eloquent, qui est un éditeur de centre de contact et d'enquête de satisfaction. Donc, en fait, je m'occupe du marketing produit pour l'offre bots, mais également, je fais aussi de la génération de leads pour la boîte et pas mal d'opérations, que ce soit du social selling, de la génération de leads. Je m'occupe également du CRM. Donc, tu vois, je suis multiple casquettes là-dessus et tu vois, j'essaye d'avoir ce que j'apprends avec le blog conseil marketing. J'essaie de l'appliquer chez Eloquent. Voilà. Et donc, bien sûr, je suis salarié à temps plein. Et en plus, donc, j'ai le blog et je fais également quelques cours en tant que prof, en particulier à l'INSEC, où j'essaye d'enseigner l'art et la manière de faire du growth hacking en B2B et en B2C à des petits élèves.
Ok, super. Donc, tu es bourré de casquettes. Alors, ce qu'on aimerait savoir, pour toi, les plus grands défis dans le marketing B2B en 2023?
Alors, il y en a plusieurs. Moi, en fait, c'est chez Eloquent. Notre plus grand défi, c'est générer des leads de qualité. Parce qu'en fait, la génération de leads, sincèrement, on en fait beaucoup. Et d'ailleurs, tous les commerciaux qui arrivent chez nous nous disent à chaque fois « Waouh, ça change vraiment des autres boîtes, on a un paquet de leads à gérer ». Le truc, c'est qu'en fait, nous, on s'adresse aux très grands comptes et aux groupes internationaux, etc. Donc en fait, tu as quand même une quantité de leads qui n'est pas suffisante. Donc en fait, il faut vraiment travailler sur cette qualité encore plus que la quantité. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'il faut vraiment travailler sur cet aspect qualitatif et savoir quels sont bons marchés. Parce qu'en fait, il y a une concurrence qui est beaucoup, beaucoup plus forte actuellement. Toi, il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça, tu faisais un post LinkedIn, tu faisais des webinaires, tu faisais un peu de gros hacking sur LinkedIn avec des envois de direct message. Et bien, en fait, tu étais le roi du pétrole. Maintenant, en fait, tu vois vraiment qu'il y a une maturité qui est vraiment beaucoup, beaucoup plus importante sur le web. Et les recettes qui marchaient il y a 4-5 ans ne marchent plus aussi bien maintenant. Et il faut essayer tout le temps d'innover, faire des choses différentes. Par exemple, tu vois, on a un événement qui s'appelle Select Summit qu'on anime chaque année. Et donc, cet événement-là, auparavant, qu'est-ce qu'on faisait? Moi, j'envoyais sur ma liste perso sur mon blog. Eloquent envoyait quelques emails. Et voilà, ça y est, on remplissait le truc. Après, en fait, on a commencé à rajouter LinkedIn comme canal de communication. On a essayé des messages vocaux, on a essayé des SMS. Donc, en fait, chaque année, il faut un petit peu revoir sa stratégie parce que ça devient un peu plus compliqué, un peu plus saturé. Donc, il faut travailler l'omnicanal, le relationnel, son image d'expert. Ça suffit plus d'avoir une base d'email. Là, par exemple, tu vois, j'aide un de mes anciens collègues Je lui donne quelques conseils, en fait, peut générer des leads. Et en particulier, lui, il est dans le domaine, en fait, encore une fois, du grand compte et dans la relation client aussi. Et il m'a dit, bah, tiens, je voudrais générer des leads, aide-moi à organiser un webinaire. Et c'est vrai que bah, lui, c'est une boîte qui démarre. Hein, et c'est vrai qu'il a quelques centaines de contacts, pas des milliers, justement quelques centaines. Et puis, c'est vrai qu'il m'a dit, bah, comment je peux faire pour avoir un minimum de 100 inscrits à mon webinaire? Et je dis, bah, déjà, 100 inscrits pour une boîte qui démarre, c'est déjà bien, c'est pas mal. Et c'est vrai qu'il m'a dit, bah, tiens, j'ai 500 prospects sur mon CRM. Avec ça, ça devrait être pas mal et tout ça. Et je lui dis, ben attends, c'est quoi la qualité de ta base? Et on se rend compte que, grosso modo, sur les 500, parce qu'il m'a dit, oh non, t'inquiète pas, la base, je la tiens un jour, c'est mon CRM, blablabla. Donc, ils sont quand même petites dizaines dans la boîte. Hein. Et ben, on se rend compte que finalement, il y avait plus de 25%, enfin environ 25% de la base qui était has-been, avec des gens qui ont changé de poste il y a 3 ans. Toi. Et le reste de ces emails, quand tu l'envoies, ben moi, je me disais, ouais, c'est des gens qui le connaissent, il va avoir du relationnel, machin, etc. Et ça a été plutôt un échec au niveau des emails. En revanche, ce qui a super bien fonctionné, c'est LinkedIn. Toi, LinkedIn, comme ils sont les 4-5 personnes qui ont, on va dire les 3-4 personnes qui ont 10 ans d'ancienneté dans le secteur d'activité, il y en a un ou deux qui ont vraiment un réseau très, très, très fourni. Et ben, c'est vrai que là, on a eu des résultats. On va dire que allez, 80% de plus de la centaine de leads inscrits au webinaire, ben, ce sont en fait des gens tirés de LinkedIn avec l'utilisation d'outils de cross-hacking comme LinkedIn Helper ou moi, je n'utilise pas pour cette opération-là. J'utilise d'autres fois comme Walaxy, par exemple. Donc, en fait, ça montre bien qu'il faut essayer de faire de l'omnicanal. Là, par exemple, pour son webinaire, moi, je lui ai conseillé de prendre sa sélection de prospects VIP et soit de les appeler, soit d'utiliser une message vocale, soit de les relancer via son email perso, etc. Donc, en fait, il faut vraiment, vraiment, vraiment être plus enfin, faut faire beaucoup plus d'efforts, en fait, pour avoir les mêmes résultats sur le web.
Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça parce qu'on a maintenant de plus en plus de monde qui a accès aux mêmes outils que nous, essentiellement. Donc forcément, ça va augmenter le niveau de concurrence par rapport au contenu qu'on dépose. Moi, j'ai envie d'ajouter un petit point par rapport au webinaire. C'est vrai que c'est quelque chose qui se réinvente aujourd'hui. Par rapport au webinaire, ce que je constate, c'est qu'auparavant, le webinaire, on met en place le webinaire, on invite plein de gens au webinaire, les gens s'assoient devant le webinaire, et après, derrière, on leur envoie un replay, et derrière, le replay, on va le mettre quelque part sur le site internet. Ce que j'aime beaucoup faire maintenant, c'est qu'une fois que le webinaire il a été créé, c'est reprendre ce webinaire-là et en fait le découper en plein de petits morceaux, en plein de petits clips consommables de manière native sur LinkedIn. Parce que les gens, ils n'ont pas forcément le temps de prendre une heure pour regarder tout le webinaire. Par contre, ils ont forcément le temps de 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30, directement dans leur fil d'actualité quand ils sont en train de scroller. Et ça permet du coup de démultiplier au final la portée en fait de ton contenu. Au lieu de le montrer juste à 100 personnes, bah, tu vas le montrer à plusieurs milliers de personnes.
Ouais, exactement, c'est tout à fait vrai parce qu'en fait on voit bien que les contenus longs, les articles de blog longs, ça crée de la notoriété, ça fait de la visibilité, mais les gens recherchent vraiment moins d'efforts. Tu vois, par exemple, pour les invitations au webinaire, depuis un an, en fait on met 2 boutons dans le webinaire. Tu as « je veux regarder en replay » et je veux en fait regarder en live. Et c'est indispensable parce qu'on se rend compte que, allez, on va dire que tu as un tiers des gens qui ne veulent plus en fait regarder des webinaires en live. Et donc, même quand on voit des invites LinkedIn, souvent en fait, là aussi, c'est une petite astuce qui te permet d'avoir 10 ou 20% des gens en plus. C'est en fait, quand on voit une invite LinkedIn en direct message, il y a une sélection de personnes, tu n'envoies pas à tous tes contacts, ceux qui sont pertinents. Bah, généralement, les gens répondent avec le truc LinkedIn, c'est le petit like, la petite réponse type. Et en fait, à ces trucs-là, tu leur dis ah, merci, est-ce que tu veux recevoir le replay si tu n'es pas dispo, machin et tout ça. Et en fait, ça te permet d'aller chercher 10, 20% des gens en plus pour ton webinaire. Mais pour moi, le webinaire reste quand même s'il est déjà vu plein de fois, etc. Enfin, point de vue, c'est un format qui est assez usé. Bah, c'est un moyen, en fait, de créer l'événement. Parce que le problème, autrement, c'est que les gens, en fait, d'une part, sur LinkedIn, ils voient pas tes actualités parce qu'il y a le flux LinkedIn qui trie. Les emails, bah, forcément, les gens reçoivent beaucoup et c'est pas facile de pouvoir gagner en visibilité. Et puis, pourquoi ils se donneraient 30, 40 minutes de leur temps? Et que si tu crées quelque chose qui est événementiel, qui est sur un bon sujet, qui va aller les attirer, là tout de suite tu vas aller faire des efforts. En B2B aussi, si on veut élargir un petit peu sa cible, nous en fait on travaille pas mal avec Webikio, qui est une solution de webinaire, qui est aussi une base de données de plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de personnes. Et ça permet en fait d'aller un petit peu renouveler ton stock et aller chercher au-delà de ta cible naturelle. Donc ça, c'est un petit moyen d'aller capitaliser sur une base existante et un petit peu diversifier tes sources. Alors après, c'est toujours un petit peu les mêmes personnes, un petit peu les mêmes bases. Donc en fait, ça suffit plus en fait, comme on disait tout à l'heure là, en B2B, tu peux plus te contenter juste de faire ça. Et de toute façon, nous on l'a vu plein de fois, hein, si tu fais des webinaires, en particulier si tu fais du webico uniquement, sans utiliser par exemple du LinkedIn, sans utiliser d'autres canaux, eh ben, ou l'email, blablabla, eh ben, en fait, tu te limites en fait, à une partie de la cible parce que tout le monde ne regarde pas des webinaires. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours penser omnicanal avec de la génération de leads via des partenaires, via des salons, via des événements privés, etc. Et là, en fait, tu peux vraiment ratisser un peu plus large.
C'est quoi les erreurs dans le marketing B2B que toi, tu vois le plus souvent ?
Pour moi, il y a pas mal d'erreurs. La première chose, en fait, c'est lié au fait que maintenant, on est quand même dans un environnement concurrentiel qui est quand même beaucoup plus dur. Et en fait, les budgets marketing, moi, je vois bien, ils sont quand même assez serrés. Donc, le but, en fait, c'est d'avoir suffisamment d'impact sur des canaux et suffisamment de visibilité et pas trop saupoudré. Et la deuxième chose, c'est essayer de ne pas faire comme d'habitude. En fait, moi, je le vois vraiment en B2B, c'est assez visible. Il y a plein de gens qui font un peu tout le temps la même chose. Chaque année, on va participer au salon, on va faire la publicité, on va faire du sucre, etc., etc. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est oser se remettre en question et se dire, on fait bien sûr un bilan, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, comment on peut faire de manière originale. Par exemple, cette année, on a tenté du SMS pour envoyer des inscrits sur notre événement annuel. Ça n'a pas fonctionné. Après, il faut en fait changer, revoir un petit peu ce qui se passe. Et même au niveau du growth hacking, tu vois, il y a plein de choses qui bougent. Par exemple, sur LinkedIn, pour vaincre la limite en fait, des 100 invitations par semaine, il y avait jusqu'à présent la possibilité d'uploader un fichier d'email et tac, en fait, tu pouvais comme ça ajouter des gens. Tu pouvais inviter les gens par email. Ça, en fait, LinkedIn a mis le holà là-dessus. Maintenant, il faut passer par Google avec un compte Google, ça connaît son compte. Alors, ça devient très compliqué. Donc, en fait, il faut comme ça apprendre non-stop. Et par exemple, là, le ChatGPT aussi, ça, c'est quand même une sacrée révolution qu'il faut prendre en compte. Je dirais que un des problèmes que je vois aussi souvent, et ça, c'est valable même chez nous, hein, parce qu'en fait, moi, je travaille donc avec ma collègue Chantal, qui est une super pro du marketing. Et c'est vrai que parfois, je trouve que nos communications sont très corporate. Corporate, c'est-à-dire que c'est assez classique, on ne met pas assez d'émotions, pas assez d'humains. Et moi, en fait, au contraire, j'essaye de mettre du jeu. C'est-à-dire que dans mes publications LinkedIn, je ne dis pas « nous », etc., etc. Je donne un avis tranché. Et tu vois, même ça m'arrive parfois de générer des publications avec le ChatGPT. Je pourrais t'en parler tout à l'heure si jamais tu veux échanger là-dessus. Mais donc, en fait, je dis « ChatGPT, voilà, tu prends un texte ou tu m'améliores ce texte. » Enfin bref, X manière. Et ben en fait, à chaque fois, je dis toujours du jeu. Parce que si en fait, on reprend le texte du ChatGPT, qu'est-ce que ça va être ? C'est quelque chose d'aussi lisse, d'aussi mou. On dit souvent que le ChatGPT parle comme un vieux prof de français. On va pas créer d'émotion, on va pas. Oui, c'est en outre, en revanche, machin, tout ça. On l'exprime pas.
C'est ce que j'ai vu. Ouais, j'ai testé et franchement, j'ai pas kiffé, mais j'ai pas assez creusé, je pense, en ChatGPT pour.
ChatGPT, il y a vraiment des choses sympas à faire. Alors donc là, moi, j'essaye toujours quand je fais un texte comme ça, que ce soit du ChatGPT ou du texte natif, hein, et ben en fait, c'est dire je. Déjà, voilà ce que j'en pense. Voilà pour moi. Ce que je dis, en fait, c'est vraiment important d'avoir cette partie personnelle qui permet en fait de se distinguer et d'être vraiment différent. Donc pour moi, il faut libérer cette parole, libérer ce contenu et plus faire des publications, des articles à l'ancienne. On ne peut pas en fait faire comme avant où il y avait un comité éditorial qui se réunissait tous les mois, puis on va sortir un article, etc., etc. Non, il faut vraiment être plus dans la réactivité, l'autonomie des personnes et puis en fait donner cet avis d'expert. Voilà. L'autre point en fait, comme je te disais, c'est essayer de pas trop saupoudrer son plan marketing et essayer de travailler sur quelques canaux privilégiés. Hein. Ça peut être le SEO, ça peut être le social selling, ça peut être le social selling, ça peut être la pub. Bref, mais essayer de se concentrer sur quelques canaux et voir un petit peu ce qui marche bien. Là actuellement, on fonctionne pas mal sous l'angle des partenariats. En B2B, c'est assez bien pour travailler avec des partenaires. D'accord. Pour par exemple faire des animations, faire des webinaires, faire des événements, etc., etc. Parce qu'en fait, on va capitaliser sur deux bases, on va capitaliser sur des cibles différentes. Et voilà. Mais il faut bien sûr trouver les partenaires qui jouent le jeu. C'est ça qui est vraiment le plus compliqué, c'est trouver le bon partenaire. Et une fois que tu as fait ça, faut essayer de crédibiliser ton offre avec des témoignages clients. Moi, ouais. Je vois bien, j'avais un webinaire toi ce matin, c'était 10 innovations au centre de contact. Et typiquement, en fait, parmi les 10 innovations, en fait, grosso modo, nous, on en avait 3. Les autres, en fait, c'est des innovations des partenaires qui permettent en fait d'apporter un petit plus. Et surtout, en fait, grâce à ces partenaires-là, leur dire, tiens, on va parler de toi dans ce webinaire. Est-ce que tu peux en faire une petite promo au minimum sur LinkedIn? Si tu peux, t'en parles sur ta newsletter, blablabla. Et donc, ça te permet, avec un impact et un budget comme relativement limité, de varier un peu tes sources de trafic. Parce qu'en fait, autrement, tu es tout le temps en fait dans les mêmes eaux. Nous, nos commerciaux en B2B, comme ça, ils se plaignaient un peu de ça. Ils nous disaient, ouais, mais c'est tout le temps avec Webikeo. On faisait à un moment donné, je crois, c'est un webinaire tous les mois ou un webinaire tous les deux mois. Enfin, vraiment un nom important. Et puis, ils nous disaient, mais c'est tout le temps les mêmes. Et c'est vrai que si tu restes comme ça, consanguin, ouais. Sur les mêmes bases, eh ben, en fait, tu varies pas les choses et tu passes à côté des appels d'offres. Et c'est pour ça que moi, je milite véritablement pour créer des relations omnicanales. Mm-hmm. Par exemple, tu vois, là, pour les webinaires, systématiquement, je demande à mon assistante de prendre la liste des inscrits et tout simplement, je les qualifie moi en amont en ABCD en disant est-ce que c'est un bon compte, un moyen compte ou hors cible, blablabla. Et les gens qui sont dans la cible, les plus intéressants, je demande à mon assistante de les inviter sur LinkedIn. Comme ça, ça fait un nouveau canal pour communiquer avec eux. Et ça, c'est essentiel de se dire que l'email, ça suffit plus, le téléphone, ça suffit plus. Il faut aller chercher ces différents canaux. Voilà.
C'est vraiment intéressant ce que tu dis par rapport au partenariat et par rapport au fait de personnaliser davantage la relation, go the extra mile en fait, tu vois, faire ce que tes concurrents ne font pas nécessairement et aller un peu au-delà de l'automatisation.
Ouais, un excellent exemple. Tu vois, sur LinkedIn, tu as une fonctionnalité qui est arrivée il y a 2-3 mois qui est Celebration. Tu vois, je crois que c'est linkedin.com/celebration. Et en fait, tu as là toutes les personnes qui ont leur anniversaire pro, perso et les nominations. Et donc, en fait, ça, c'est assez intéressant parce que, tu vois, moi, j'utilise LinkedIn depuis des années pour faire des invites et tout ça. Il y a des gens, en fait, qui réagissent peu. Tu as beau leur envoyer un message pour un webinaire, bon, ça ne les intéresse pas. Par contre, quand tu commences, en fait, à rentrer dans le personnel et leur souhaiter leur anniversaire, un changement de poste, là, tu vois, tu as de la réponse. Là, tu as de l'interaction. Et c'est là, en fait, où tu dis, mais il ne faut pas juste pousser. Il faut créer du lien. Et il y a pas mal de gens comme ça qui n'ont pas encore compris cet aspect important de rester dans la mémoire de ces prospects clients. Et comme ça, en fait, en étant présent comme ça dans leur esprit régulièrement, soit via un direct message, soit via une publication, soit par autre chose, et ben en fait, ça permet tout de suite de rester dans les mémoires. Et quand ils auront un besoin, ils auront une shortlist. Et c'est vrai qu'il y a notre directeur commercial qui à chaque fois me dit mais pourquoi les mecs ils t'écrivent à toi et pas à nous? Et je dis pas mal de fois, c'est parce que je suis un beau gosse. Et mais c'est simple, ces commerciaux ils sont inconnus, ils les connaissent pas. Tandis que qui connaît quand ils ont un besoin, qui est-ce qui leur envoie des emails, qui est-ce qui leur envoie des messages, c'est Bibi, quoi. Et donc, en fait, ils connaissent une référence. Et je trouve ça forcément très dommage parce qu'en fait, dans une boîte, moi, je travaille pour Eloquence et plus de 6 ans que je travaille pour cette boîte-là. Mais donc, si jamais je partais un jour, toute cette expérience, tout ce relationnel qui a été créé, va falloir s'accrocher pour le recréer. Surtout que, OK, on récupère les bases emails et tout ça, mais ce lien personnel, cette image d'expertise, en fait, il ne se construit pas du jour au lendemain. Donc, pour ça, moi, j'invite véritablement les directeurs marketing, les directeurs commerciaux, les dirigeants et CEO d'entreprise, d'aller au charbon et de représenter leur boîte. Parce qu'en fait, je vois beaucoup de directeurs, directeurs commerciaux, qui restent en fait cantonnés à leur rôle de directeur commercial, à gérer leurs équipes de commerciaux. Or, en fait, il faut qu'ils participent de manière plus ou moins active au contenu. Et là, justement, le ChatGPT peut aider. Tu vois, je pense que tu connais comme moi les commerciaux, en particulier dans le B2B. Souvent, en fait, ils n'ont pas le réflexe d'aller sur LinkedIn et de publier du contenu parce que, un, ce n'est pas ce qu'on attend d'eux, et deux, en fait, ils n'ont pas le temps. Et donc, si tu leur demandes déjà de liker ou le faire en automatique pour eux, déjà, c'est déjà un effort qui est plus faisable, mais créer du contenu, c'est pas simple, parce que c'est pas leur mission. On va pas les féliciter à la fin du mois si, ah tiens, tu as fait 3 publications LinkedIn. On va pas les féliciter s'il y a 100 likes sur une publication. On les félicitera s'ils signent un dossier, donc c'est pas leur mission.
Ouais.
Néanmoins, quand on est manager, directeur, c'est quand même important d'aller travailler à ce niveau-là. En particulier, moi, donc, avec ce fameux commercial qui a vraiment une sensibilité social selling, ce qu'on fait, en fait, c'est que on a fait plusieurs sessions de travail, à peu près un quart d'heure, une demi-heure à chaque fois, et on lui prépare une à deux publications LinkedIn. Soit, en fait, il y a deux manières de créer ces publications. Soit, en fait, on a en fait un sujet qu'on sait qui va être vraiment un sujet viral. Moi, par exemple, c'est le NPS, c'est l'écoute, l'analytics, le speech analytics, etc. Et après, tu dis, tiens, qu'est-ce que je peux créer sur ce sujet-là, et tu peux requérir l'aide du ChatGPT pour avoir une base de travail. À partir de cette base de travail-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois tout simplement, en fait, améliorer la chose pour que ça soit en mode conversationnel, pour qu'il y ait en fait des questions qui soient posées, pour qu'il y ait de la valeur ajoutée d'expertise, parce que ChatGPT ne saura jamais faire ça. Mmh. Et comme ça, tu vois, avec ce commercial-là, on a fait un post, mais j'étais sûr que ça allait cartonner. C'est un post en fait sur le NPS, les limites du NPS.
D'accord.
Tu vois, le post à peu près, il est fait à 60% par le ChatGPT. Le 40%, c'est moi qui ai mis du conversationnel, c'est moi qui ai mis un peu de métier, un peu de questionnement. Et avec cette petite publication, il a fait ses 20 000 ou 30 000 vues, 30 000 vues, je crois.
Trop bien.
Et,
attends, on va ralentir un petit peu. J'aimerais que tu nous expliques comment tu as fait en fait. T'as ouvert ChatGPT, qu'est-ce que tu lui as donné comme input?
Alors en fait, c'est simple. Comme je disais, c'est la méthode 1, c'est ça. C'est tu connais des sujets qui sont polémiques dans ton secteur d'activité. Nous,
ouais.
Par exemple, le calcul du NPS, c'est toujours un truc qui est polémique.
Ouais.
Donc en fait, tu te dis, le NPS, le sujet, ça va être le NPS pour ou contre, ou plutôt limite. Voilà, c'était les limites du NPS. Quels sont le NPS
d'accord.
pour ou contre, ou un truc comme ça. Donc à ce moment-là, comme on n'avait pas de temps d'aller rédiger tout le truc, tu vas dans le ChatGPT et tu lui dis, dis-moi quelles sont les limites et avantages du NPS. Tac, il te sort en fait cette liste-là avec X points. Donc là-dedans, dans cette liste, il y a des trucs qui ne sont pas terribles, des trucs qui sont hors cible, etc. etc. Donc tu ne les gardes pas. Par contre, en fait, tu gardes en intro le conversationnel au début en disant, le NPS, est-ce que vous êtes pour ou contre, ou un truc comme ça, je ne sais plus ce qu'on avait mis. Un truc où on pose une question et
ouais.
À ce moment-là, on introduit en disant le NPS, souvent décrié, mais toujours l'indicateur de référence en relation client. Chez nos clients, c'est un indispensable parce que ça, 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 ça. Pourtant, il y a ça, 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 ça qui est pas. À votre avis, est-ce qu'il faut tuer le NPS? Est-ce qu'il faut passer à un autre indicateur? Chez nos clients, par exemple, on met en place le CXI qui permet de faire ci, ça, 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 qui casse les limites. Alors, à votre avis, que faut-il faire? Et donc, avec ça, tu rajoutes un visuel. Alors, idéalement, maintenant, tu peux utiliser Midjourney, Leonardo ou Bing Create pour créer une image un peu sexy. Et voilà, tu lances le débat.
D'accord.
Ça, c'est la première manière. Donc, le ChatGPT, grosso modo, il génère des trucs un peu basiques et après, tu fais tout le reste derrière. Alors, le but, c'est vraiment de faire une publication rapide pour les commerciaux. Deuxième manière, là, c'est encore plus feignant. C'est-à-dire que tu vas dans le ChatGPT et tu lui dis quels sont, par exemple, les 15 sujets polémiques ou sujets à discussion ou sujets à controverse dans le domaine de ta, 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 dans le domaine de la relation client. Tu vois, même tu vois, je vais le faire, tiens, en live. Alors dis-moi quel sujet tu voudrais, quelle thématique en fait tu voudrais aborder. Je vais le taper en direct et comme ça on verra les réponses.
Quelles sont les tendances les plus controversées en B2B, en marketing B2B?
Des tendances à B2B. Voilà. Alors, donc le prompt, je lui dis, donne-moi 10 sujets à polémique ou à controverse sur la thématique des tendances du marketing B2B. Hop, donc là, en fait, il va réfléchir. Alors, je n'ai même pas pris le chatbot, le ChatGPT V4, hein, j'ai le 3.5. Il dit, alors, efficacité du marketing d'influence dans le B2B, est-ce qu'une valeur ajoutée, une tendance passagère? L'utilisation des données personnelles dans le marketing B2B, l'impact de l'intelligence artificielle dans le domaine du marketing B2B, la pertinence du chatbot dans la relation client B2B, le rôle des réseaux sociaux, l'impact des avis en ligne, alors la prédominance du contenu vidéo dans le marketing B2B. Ah tiens, voilà, il y a un truc comme ça qui peut être intéressant, c'est La prédominance du contenu vidéo dans le marketing B2B, une évolution nécessaire ou une surestimation de son influence. Toi, et là, tu peux dire, bah voilà, tu peux lui dire, tu as le sujet qui est là. Et donc, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire, écris-moi une publication LinkedIn en mode conversationnel sur le sujet, tac, machin. Alors, je n'ai pas dit de mettre des emojis, mais ah, si, l'ami, avant, il ne mettait pas les emojis, mais là, il les met un peu plus avant, je précisais toujours. Et là, en fait, il te sort un texte qui, bon, au début, n'est pas terrible. Il dit « Salut les marketeurs B2B, aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui fait beaucoup parler ces derniers temps, la place grandissante du contenu vidéo dans nos stratégies marketing B2B. Certains affirment que c'est l'avenir incontournable du marketing B2B, tandis que d'autres pensent que son impact est exagéré. Quelle est votre opinion ? D'un côté, les défenseurs de la vidéo soutiennent qu'elle permet de transmettre des messages intéressants, tatatata. Là, tu sais, c'est le côté prof de français, dit « En outre, la vidéo est un format polyvalent et adaptable. » Bon, là, cependant, ceux qui pensent que là. Donc, en fait, tu arrives à un texte qui est, bon, qui est adaptable. Mais on dirait, moi, je prendrais déjà le début en disant certains affirment que, est-ce que la vidéo est l'avenir incontournable du marketing B2B ? Est-ce que vous êtes pour ou contre ? Quelle est votre opinion ? Et là, en fait, tu enchaînes derrière. Alors là, il m'a fait un texte un petit peu trop verbieux, et je pourrais rajouter dans le prompt « Mets-moi des bullet points pour simplifier. » Voilà. Et donc, en fait, tu fais le truc, et là, en fait, tu as ta petite publication qui est une base. Voilà, il va... après, tu peux dire « Mets-moi un ton un peu plus professionnel, blablabla. » Mais là, il va me dire « Voilà, les avantages du marketing B2B en vidéo, engagement accru, transmission d'informations complexes, mémorisation et partage. » Et après, « Mets critiques et limites. » Les coûts de production élevés, l'accessibilité, la saturation du marché. Et voilà, en fait, là, en 3 secondes, tu as quand même une publication qui n'est pas géniale, mais qui est une base. Si avec ça, tu te dis, voilà mon expérience personnelle, j'ai fait une vidéo là-dessus et j'ai fait tant de vues. J'ai fait un article, une publication LinkedIn avec tant de trucs, j'ai fait tant de vues. Eh bien, il s'avère que finalement, la vidéo, c'était moins bien, ou il s'avère que la vidéo, c'était mieux, blablabla. Et là, quel est votre avis ? Tac, tu arrives sur une publication qui est vachement plus pertinente. Tu vois un petit peu le style.
Ouais. Ouais, c'est intéressant. Comme quoi, hein, c'est une base en fait que tu as. Et puis après, derrière, il faut évidemment l'adapter. Moi, je me rappelle, j'avais un contact sur LinkedIn. Des fois, il commentait mes trucs. Mais ses commentaires, c'était vraiment... en fait, c'était du copier-coller de ChatGPT. Hein, parce que vraiment, c'était pas humain en fait, ce qu'il écrivait, quoi.
Ah ben, en fait, oui. Alors ça c'est un autre point. Alors en fait, le ChatGPT, ça te permet de faire des commentaires sur tes... tu peux faire des commentaires automatisés, mais c'est pas trop intéressant parce que tu peux te griller. Comme on dit, tu mets des années à créer une réputation et tu mets 5 minutes à la détruire. Et ben en fait, c'est la même chose en fait sur Internet. Par contre, tu peux le faire de manière un peu intelligente. Tout à l'heure, je t'ai parlé du truc de célébration là, de LinkedIn. Moi, en plus, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mon assistante qui s'appelle Sabrina, qui en fait, je lui donne en fait une délégation sur mon compte. C'est-à-dire que je lui dis, une demi-heure par jour, Sabrina, tu vas sur mon compte réseau social, mon compte LinkedIn, et en fait, tu vas regarder les publications qui t'intéressent, tu vas liker. Si c'est un truc qui te paraît correct, tu vas faire un petit like, un petit bravo en particulier pour s'il y a des trucs sympas, s'il y a des offres d'emploi ou des choses comme ça. Et donc, en fait, ça permet, mine de rien, d'aller un petit peu animer ton compte en mettant de l'humain sans y passer des heures non plus. Alors, bien sûr, moi aussi, je passe du temps à scroller hein, sur LinkedIn, hein, mais ça vient compléter en fait ce travail-là. Mais encore une fois, mon assistante aussi, je ne lui donne pas tout. Par exemple, tu vois, ma stratégie sur LinkedIn, c'est donc de publier du contenu, mais ce n'est pas le cœur de la stratégie. Le cœur de la stratégie, c'est créer un réseau, essayer d'avoir l'ensemble des professionnels de mon secteur d'activité sur mon réseau LinkedIn, c'est les contacter de manière régulière, leur proposer des webinaires, blablabla. Mais en fait, pour par exemple les inviter, les invitations, je le fais en automatique avec un outil qui s'appelle LinkedIn Helper, j'utilise également Walaxy, donc l'un ou l'autre. Ensuite, il y a un deuxième message. Si jamais la personne n'a pas répondu au message avec un simple emoji ou une simple phrase, et ben à ce moment-là, c'est mon assistante qui va sur mon compte et qui fait un message personnalisé en personnalisant le prénom, parce que parfois, c'est pas très bon, en personnalisant l'entreprise, parce que ça, c'est très compliqué à faire, et en ajoutant une image. Alors maintenant, il y a le logiciel de Grossack qui permet d'ajouter des images, mais c'est un petit peu rare. Donc là, en fait, on arrive à quelque chose d'un peu plus humain. Et si la personne me répond en me disant oui, merci, etc., etc. Et ben en fait, c'est moi qui réponds.
Ouais, excellent.
Et c'est moi en fait qui vais faire un message qui est encore plus personnalisé. Donc il faut vraiment associer l'humain, la délégation et le do it yourself, le fait soi-même.
Ouais, ouais, comme ça tu combines tout ça. C'est super intéressant et effectivement, c'est quelque chose que j'ai pas pensé à faire. C'est une petite question technique à te poser. Est-ce que LinkedIn, il va pas te poser des problèmes s'il voit que, par exemple, tu te connectes sur ton compte et après d'ailleurs ton assistant ou ton assistante se connecte sur ton compte aussi?
Alors, ça arrivait il y a 3 ans de ça. 3 ans de ça, j'ai eu ça. C'est-à-dire qu'en fait, LinkedIn faisait la chasse beaucoup en fait, au logiciel de gros hacking qui abusait et qui, en fait, utilisait des serveurs qui étaient... basé à l'étranger. Et donc, en fait, là, paf, une fois ou deux, j'ai eu mon compte de suspendu. Je me disais, tiens, il y a un truc illégal, machin, etc. Ouais. Alors, pour l'instant, en fait, ce qui se passe, c'est que LinkedIn est quand même assez sympa. C'est-à-dire qu'il suspend, mais il ne supprime pas. Voilà. Donc, voilà. Et pour l'instant, en fait, le gros hacking, c'est ça. Hein. Le gros hacking, c'est bénéfice-risque.
Ouais.
C'est-à-dire que tu peux faire des choses, mais tu peux avoir des conséquences. Et c'est vrai que là, par exemple, à titre perso, moi, je peux faire des choses. Mais par exemple, pour Eloquent, je ne le fais pas.
Ouais.
Parce qu'en fait, je ne peux pas me permettre de faire des trucs illégaux ou des choses comme ça. Tandis qu'à titre personnel, toi, mon assistante, elle travaille pour moi. Mais par contre, Eloquent, comme on a une politique qui est vraiment très, très forte au niveau du RGPD, en fait, je ne donne jamais de données clients à mon assistante. C'est pas possible. Donc en fait, je donne uniquement mes données personnelles ou l'animation de mon compte personnel, mais je ne vais pas en fait donner des choses qui sont confidentielles. Ouais. Donc en fait, selon l'entreprise, tu auras plus ou moins de liberté et justement, quand tu es une petite entreprise, il faut que tu apprennes à avoir plus d'agilité.
Franchement, super interview. Pour la terminer, j'ai envie de te poser une toute dernière question. Est-ce qu'il y a un marketeur ou un événement que tu conseilles de suivre?
Alors, il y en a plusieurs. Alors, moi, en fait, si là, on est en début juin, hein, j'aurais le plaisir en fait d'intervenir à Inbound Marketing France qui se déroule à Rennes le 13-06, hein, le 13 juin prochain. Et c'est vraiment un événement intéressant parce qu'ils abordent quand même pas mal de petites thématiques. Ils parlent du marketing, B2B ou B2C, mais pas mal de B2B. Et je trouve que c'est assez intéressant. Alors, le but, c'est de ne pas assister à toutes les conférences, je crois qu'il y en a 40, mais c'est quand même assez intéressant pour faire un tour du marché. C'est comme en fait de temps en temps aller sur un salon, rencontrer les gens en direct, c'est pas mal. Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment sélectionner. Donc voilà, donc là c'est un événement auquel je vais participer qui est assez sympa. Si on parle de gros hacking, à ce moment-là, il y a vraiment un forum que j'aime beaucoup qui est forum-grosshacking.fr où en fait il y a vraiment les actualités récentes du gros hacking. Il y a des trucs légaux, des trucs moins légaux, mais c'est intéressant en fait pour se remettre à niveau. Parce que parfois, en fait, même parfois, c'est tout le temps, le gros hacking évolue énormément, les réseaux sociaux évoluent énormément, il faut toujours, toujours se tenir au courant. Donc ça, en fait, je pense que c'est, s'il y a comme ça un ou deux sites internet que je fréquente régulièrement, il n'y en a plus beaucoup, mais celui-là, grosshacking.fr, il n'y a pas beaucoup de sujets, c'est vraiment un forum à l'ancienne, mais je trouve qu'en fait, que ça permet de se tenir au courant des actualités sur ce qui se passe. Donc voilà.
Merci beaucoup de ton intervention sur le podcast. C'était plein de pépites. Comment ça se passe pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi?
Oh bah c'est simple. Il suffit d'aller sur mon blog conseilmarketing.com. Là, il y a des actus que je publie régulièrement. J'essaie de faire un article par semaine. J'ai rédigé à 95% par mois. Je fais encore peu appel au ChatGPT. Et puis avant, j'avais du mal en fait à trouver des rédacteurs. En fait, il faut être clair. Trouver des bons rédacteurs, c'est très très difficile parce que moi j'ai un niveau d'exigence assez important et le ChatGPT, tout comme les rédacteurs offshore, c'est un niveau qui est trop générique. Et c'est pour ça en fait que le ChatGPT, je dis pas quasi du jour au lendemain, mais en tout cas a vraiment fait énormément de mal aux rédacteurs offshore puisqu'en fait le ChatGPT arrive à rédiger des contenus qui sont très 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 proches des rédactions qui sont faites par même ChatGPT ou d'autres, hein, Jasper et compagnie, CopyAI et tout ça. En fait, ça arrive à rédiger des textes qui sont très proches, surtout si tu réussis à faire un bon prompt et qui sont d'une qualité quand même qui suffit. Alors, bien entendu, si on parle en termes de SEO, Google n'aime pas trop ces articles-là parce qu'il arrive quand même à les détecter. En plus, si on écrit des articles trop génériques, le lecteur ne va pas rester sur la page, etc. Donc, il faut toujours rajouter, comme avec un rédacteur, il faut rajouter son propre conseil, il faut rajouter son expérience, il faut rajouter sa voix. Donc, non, le contenu n'est pas mort avec le ChatGPT, mais il doit évoluer vers soit en fait du volume, mais alors là, c'est du volume en rédacteur SEO comme avant, sauf que c'est moins cher. Soit en fait, il faut faire du qualitatif, il faut faire de l'émotion, faire de la valeur ajoutée. Et là, en fait, il y aura toujours de la place pour ça.
Excellent. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette petite conclusion. Merci beaucoup, Frédéric. À bientôt.
Merci, bye bye.